dit Zot Tata Torah. A priori, la traduction, c'est ceci, Zot. Zot, c'est le féminin de Zé. Zé, c'est ce qu'on peut montrer du doigt. Donc, Zot, a priori, c'est ce qui va venir immédiatement, là, qu'on montre maintenant. Et on dit, c'est Chukat HaTorah. Alors, les Chukim, dans les mitzvot, vous vous souvenez, les Chukim, ce sont les décrets, c'est-à-dire, ce sont les enseignements, donc les mitzvot, plutôt, qui sont aussi des enseignements, pour lesquels on n'a pas vraiment d'explication. Alors, on te dit, voilà maintenant, Zot, ceci, c'est Chukat HaTorah, le décret de la Torah. Hachem a ordonné donc de dire, ou en disant, au Bnei Israël, et quel est ce décret? C'est Vikru Elecha, ils prendront pour toi, vers toi, toi c'est Moshe, Farah Adouma, une vache Adouma, rouge, rousse, on ne sait pas très bien, Tzmima, parfaite, c'est-à-dire sans défaut, Asher En Bamoum, on précise qu'elle n'a aucun défaut. Certains disent que le mot Tzmima va sur la rousseur ou la rougeur, c'est-à-dire que la vache en question, elle est parfaitement rouge. C'est-à-dire qu'on va... On ne va pas tolérer qu'elle ait dans sa robe qui est plusieurs poils noirs ou autres que rouges. On verra combien de poils non rouges est-ce qu'on tolère. Et ce serait ça. Tumimut, ça veut dire entièrement rouge. Et donc, sans aucun défaut, Asher lo ala alea ol. C'est une vache sur laquelle on n'a jamais mis de joug. Donc, on n'a jamais installé pour la faire travailler, mais par extension, on va dire, on n'a jamais utilisé la bête pour y poser quelque chose sur elle. Donc, c'est une bête qui a vécu de façon sans qu'on ait jamais pu l'utiliser comme bête. Et ensuite, bon, alors, tout un processus dont on va reparler un peu plus tard. Alors, ce processus-là, qui est décrit ici, à partir de la vache rousse, en gros, vous savez ce que c'est, on va fabriquer, en français, ça s'appelle des os lustrales. En hébreu, en la chaîne de la Torah, ça s'appelle mechatat. Des os de chatat. En fait, c'est des eaux, de l'eau qu'on va utiliser pour purifier quelqu'un qui a été en contact avec un mort. Il y a des impuretés qu'on peut purifier. Le corps humain peut avoir été impurifié et on peut le purifier en l'immergeant dans un mikvé. Par exemple, merci. Ouais, je l'ai pris dans le frigo. Par exemple, les halakhot consécutives, la touma consécutive à un nida, par exemple, ou à une leda, un accouchement, etc., ça se résout par immersion dans un mikvé. Mais si on est en contact avec un mort, le mikvé ne suffit pas. Il faut faire des aspersions le troisième et le septième jour de la période de purification. Les aspersions, ça veut dire on envoie des gouttelettes de cette eau, d'une eau de source, dans laquelle on a mélangé les cendres de la vache rousse en question. La vache rousse en question, on va lui faire la shrita et le corps donc va être brûlé, on va recueillir les cendres Et ces cendres-là, on va les, enfin une partie de ces cendres vont être mélangées avec de l'eau, de cette eau de source. Bon, ensuite, il y a, comment est-ce qu'on va asperger avec, avec des herbes, etc. Bon. Bref, on va envoyer ces gouttelettes le troisième et le septième jour, et ensuite, a priori, il y aura un peu un mikvé, et à ce moment-là, la personne sera vraiment pure. Donc, bien entendu que cette procédure est une procédure dont nous ne comprenons pas le sens. C'est même quelque chose qui apparaît comme une espèce de truc un peu magique sur les bords, un peu problématique donc. Alors, la première question que on va sur laquelle on va un petit peu réfléchir, c'est cette mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Para Adouma. Vous vous souvenez, quand les Bnei Israël sont arrivés au Sinaï et qu'ils ont reçu des mitzvot, on avait vu ensemble que ce n'était pas la première fois qu'ils recevaient des mitzvot, qu'ils avaient reçu à un endroit qui s'appelle Mara. C'est un endroit où ils ont trouvé, il y avait de l'eau, mais l'eau était amère. Il a fallu une procédure pour que Moshe rende cette eau buvable. Et à cet endroit-là, qui s'appelle Mara, les Bnei Israël ont reçu une dizaine de mitzvot. Parmi elles, la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de Kibbout Av Va'em, d'honorer ses parents, la mitzvah et la mitzvah de Para Adouma. Donc Para Adouma a été donné à Mara. Donc vous vous souvenez de, pour cette raison-là, on avait dit qu'on ne peut pas présenter le don de la Torah au Sinaï comme étant le don des mitzvot, parce que ça, on avait déjà eu. Alors c'est vrai qu'on a reçu 10 à Mara et au total 613, mais ça jamais que quantitatif, c'est pas qualitatif. On avait déjà reçu les mitzvot. Donc il fallait chercher autre chose si on voulait caractériser ce qui s'est passé au Sinaï. On en a parlé à l'époque de Shavuot. Et donc, première question, pourquoi est-ce que les Bnei Israël ont reçu Para Adouma justement à Mara? Ensuite, si on regarde la structure interne de la paracha de Choukat, on doit se demander pourquoi la paracha de Para Adouma est juxtaposée à l'histoire de Memriva. Memriva, c'est l'endroit où Moshe Rabbeinu a frappé le rocher au lieu de lui parler. Pourquoi est-ce que les deux sont juxtaposés? Et donc, quel est aussi le lien de la Paradouma avec la mitzvah de Shabbat, puisqu'on a donné à Mara Shabbat et Paradouma? Je vais vous rapporter ce que Rav Hofstetter dit dans Darash David, ses commentaires sur la Torah. Voilà ce qu'il dit. Donc, la Gemara, elle dit clairement que la parcha de Para Adouma, elle a été donnée au Bnei Israël le jour où on a érigé le Mishkan. Quand on a fini de construire le Mishkan, il fallait le mettre debout, en quelque sorte. Donc là, on avait des problèmes, il ne se tenait pas debout, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu essaye et que Hachem, en fait, aide Moshe Rabbeinu à le faire tenir. Le jour où on a effectivement érigé le Mishkan, ce même jour-là, on a reçu la mitzvah de Para Adouma. Ça, c'est une opinion. Et puis, il y a l'autre opinion, qui est celle que Rashi ramène, sur le pasouk qui dit « Sham Samlo Chok Umishpat », qui est que, justement, c'est Amara, comme je vous ai dit, qu'on a reçu par Aaduma. Donc, il y a une opinion qui dit que c'est Amara, d'autres qui disent que c'est au moment où on a érigé le Mishkan. Bon, on comprend assez bien pourquoi la mitzvah de Shabbat, qui a été donnée aussi à Mara, a été donnée avant les autres mitzvot. Parce que le Shabbat, c'est une mitzvah absolument fondamentale, que toute notre émouna est construite sur le Shabbat. Enfin, une grande partie de la émouna est construite sur le Shabbat. De même, on a aussi donné à Mara ce qu'on appelle les dîners mamonot, le code civil, si vous voulez. Mais ça, ce sont des choses fondamentales pour assurer la bonne marche de la société. Donc on comprend que cela ait été donné si tôt. Les parades ou mâmes, pourquoi est-ce qu'on doit le donner si tôt? En d'autres termes, pourquoi donner la mitzvah de Para Aduma avant de donner la Torah? Et là, en particulier pour d'après Rashi qui dit que ça a été donné à Mara. En vérité, il y a un problème, c'est que tant que le Mishkan n'est pas là, il n'a pas été érigé. Alors, on ne pouvait pas faire cette mitzvah concrètement, la mitzvah de Para Aduma, parce que c'est marqué dans la procédure de la Para Aduma, c'est marqué Veiza el nochach pne oel moed, midama sheva peamim. Donc, il va falloir faire ces fameuses aspersions en face de l'entrée du Mishkan. Donc avant que le Mishkan soit érigé, on ne pouvait de toute manière pas pratiquer cette mitzvah de Para Aduma. Alors à quoi sert-il de donner une mitzvah qu'on ne peut pas pratiquer avant que les conditions soient réalisées pour qu'on puisse pratiquer la mitzvah? Alors pour expliquer ça, il propose de dire la chose suivante. Remarquez que ces mitzvot de Mara, données à Mara, qui sont donc Shabbat, Para Aduma, Dinim, etc., il y a une raison pour les donner à Mara. Pourquoi? Parce que à Mara, il y a eu un miracle. Il y avait de l'eau. L'eau n'était pas potable, disons. Et il y a eu un miracle. Moshe Rabbeinu a transformé cette eau, sur l'ordre d'Hachem, il a transformé cette eau en une eau potable. Donc c'est marqué explicitement Vayoreu Hachem Etz, Hachem a montré à Moshe un bois, Vayashlech El Hamaim, il a jeté ce bois dans l'eau, Vayimtuku Hamaim, et les eaux ont été adoucies, c'est-à-dire elles étaient potables, elles n'étaient plus amères. Là-bas, c'est marqué dans la suite du verset, Sham, là-bas, Sam lo chok umishpat, Sham nisaou, là-bas, il lui a donné chok, c'est-à-dire décret et des lois, là-bas, ils l'ont mis à l'épreuve. C'est-à-dire, après qu'il y ait eu cet adoucissement de l'eau, Tevné Israël, en fait, on pouvait à ce moment-là leur donner la mitzvah de Shabbat, et Dinim, et Para, Et donc, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a donné ces mitzvot à ce moment-là à Israël, comme on va le voir un peu plus bas. Donc, pour essayer de comprendre vraiment, pour ajouter un midrash concernant justement ce fameux Nes, ce fameux miracle de l'eau. Alors le Midrash dit, Bo, Re, viens et regarde combien les voies d'Akadosh Baruch Hu sont extraordinaires, sont bien plus extraordinaires que tout ce que les hommes peuvent inventer. Parce que les hommes, le doux peut adoucir, réparer la mer, c'est sûr. Mais Akadosh Baruch Hu, Bemar me rappelle Tamar. C'est qu'en vérité, le bois que qu'Hachem a ordonné à Moshe de jeter dans l'eau pour l'adoucir, c'était un bois amer. Donc c'est la mer, on a traité la mer par la mer. Donc c'est un nes betoch nes. C'est-à-dire que le fait de pas avoir eu d'eau à boire à Mara était là pour mettre les Bnei Israël à l'épreuve. Est-ce qu'ils allaient faire confiance à Hachem ou non? C'est ça le problème. Et dans cette situation justement, il y a eu le miracle de l'adoucissement de l'eau pour enseigner aux Bnei Israël que les voies d'Hachem sont absolument extraordinaires. Quand beaucoup maîtrise complètement la nature et toutes les lois du fonctionnement du monde dépendent uniquement d'Hachem. C'est pour ça que quand beaucoup il peut adoucir l'eau amère, les eaux amères avec de la mer, avec des choses amères. Comme Rav Hanina ben Dossa l'a expliqué. Vous savez, c'est la fameuse histoire où Rabbi Chaya Ben Dosa a dit que Miche Amar la Shemen Vidlok, ou Yomar la Chomet Shit. Donc sa femme lui a dit qu'il n'y avait pas de. Elle n'a pas mis de l'huile, elle a mis du vinaigre pour allumer les nérodes de Shabbat. Alors il a dit, c'est pas grave, celui qui a dit que l'huile pouvait brûler, était le combustible, ben, il peut aussi faire en sorte que le vinaigre aussi soit combustible. Donc, c'est une façon de dire que les lois de la nature, c'est Hachem qui les a fixées, et donc il est au-dessus de ces lois, et il fait ce qu'il veut, en fait. Alors, dans notre paracha, on trouve quelque chose d'analogue. Il y avait, dans la paracha, il y a un problème avec les serpents. Vous vous souvenez probablement de l'année dernière, en tout cas. Il y avait des serpents. Étaient envoyés dans le clan d'Israël pour punir les Bnei Israël. Et quand je vois, il a dit à Moshe, quand Moshe lui a dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour... Ok, il faut maintenant, il faut arriver à maîtriser les serpents. Hachem lui a dit, Aselecha, Saraf, fais-toi un serpent brûleur, enfin un serpent dont la piqûre et la morsure est une brûlure. Et mets ce serpent sur un grand bâton, et toute personne qui aura été mordue par un serpent, elle viendra, elle regardera le serpent que tu as mis sur le grand bâton, et elle vivra. Et le Ramban explique que c'est ça, ça s'appelle Midarkei HaTorah. C'est comme ça que la Torah fonctionne. Chez Kolma, c'est un Nes betoch Nes. Que tout ce qui se passe dans la Torah, c'est toujours un Nes à l'intérieur d'un Nes. Un miracle à l'intérieur d'un miracle. C'est-à-dire, on va éliminer la cause du mal avec le mal. On va traiter le mal par le mal, en fait. comme on voit ici, que Hachem lui a dit, tu prends un Hetz, et le Hetz en question, il était tout à fait aussi amer. Là, quelque part, le serpent, ça effrayait déjà évidemment les Bnei Israël, même à l'idée. Et là, au contraire, c'est Hachem m'émit ou mechaye, c'est Hachem qui décide si on vit ou si on meurt. Et donc, voilà ce que Hachem dit, vous faites ça et vous vivrez. Pardon ? Alpizé, d'après ça, on peut expliquer pourquoi les Bnei Israël ont reçu la mitzvah de Parah Adouma à Bara. Parce que la mitzvah de Parah Adouma, elle est, comme je vous ai dit, elle est appelée décret, chouka. C'est un décret. Donc l'accent est mis dans la classification de la Parah Adouma parmi les mitzvot sur le fait que on n'en connaît pas la raison, on ne connaît même pas une raison. Souvent, quand on connaît une raison des mitzvot, ça ne veut pas dire qu'on connaît toutes les raisons. Mais au moins, on a une raison qui nous permet de discuter comme si on comprenait vraiment les choses. Ici, on ne comprend rien du tout. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il dit parce qu'il y a des halachot amukot, des halachot très, très profondes. Et vous savez bien que le paradoxe de la Parah Adouma, c'est que la Parah Adouma, elle purifie celui qui est impur, elle impurifie celui qui était pur. Le Kohen qui va faire la procédure d'aspersion, lui au départ il est pur, il asperge quelqu'un qui est impur par contact avec un mort. Après tout ce processus, résultat des courses, la personne qui était impure est purifiée, mais le Kohen qui a procédé à la purification, lui-même, il devient impur. Pas du même degré, mais il devient aussi impur. Et donc, aux yeux des gens, c'est complètement incompréhensible. Alors, c'est pour ça que les Bnei Israël ont reçu cette mitzvah à Mara, après qu'Akadosh Baruch Hu a fait justement Nes Betoch Nes, donc par l'adoucissement de l'eau, de telle sorte que les Bnei Israël se renforcent dans leur confiance en Hachem et qu'ils acceptent la mitzvah de Parah Adouma. Parah Adouma, ça a l'air paradoxal, mais justement, on te l'a donné dans une situation où tu as vu ce même paradoxal, même côté paradoxal, un S à l'intérieur d'un S, c'est-à-dire on a traité le mal par le mal. Alors, bon, ça c'est une explication sur pourquoi Parah Adouma a été donné à Mara. On avait posé une deuxième question. Pourquoi est-ce que Parah Adouma, la paracha de Parah Adouma, est juxtaposée avec la paracha de Meriva, histoire de l'eau, où Moshe Rabbeinu a frappé le rocher au lieu de lui parler? Le fait que le rocher donne de l'eau, produisent de l'eau. Vous savez que normalement, ce rocher-là, il avait à l'intérieur une espèce de source permanente, et ce rocher-là, il pourvoyait le clan Israël en eau, dans toutes les pérégrinations, et ce rocher a accompagné les Bnei Israël. Et comme il était là par le mérite de Myriam, quand Myriam est décédée, le rocher n'a plus fonctionné. Ce rocher, il est en quelque sorte retourné parmi les rochers. Et donc, le fait que l'eau, que mon cher Rabbeinu avait reçu l'ordre de parler au rocher, de lui ordonner de donner de l'eau. Ça avait pour but de fortifier la confiance en Hachem chez les Bnei Israël et pour que, là aussi, ils acceptent la para-adouma comme une procédure complètement incompréhensible, mais de même que, a priori, les rochers ne donnent pas d'eau quand on leur parle, ça se saurait, quoi. Et là, ça laisse passer. Donc, les Bnei Israël confiance, serait confiant, aurait plus de confiance en Hachem. Donc ceci, ça sera valable pour toutes les mitzvot dont on ne connaît pas la raison. Systématiquement, on fera référence en quelque sorte, par exemple, au rocher. Et quand Moshe n'a pas fait ce qu'Hachem avait demandé, au lieu de lui parler, je s'est mis en colère et il l'a frappé, et donc le rocher, il a bien fini par donner de l'eau, mais Hachem voulait que ça se passe différemment. Vous voulez... C'était une étape de plus dans la construction de la confiance en Hachem. Au départ, en Égypte, Moshe Rabbeinu, il est là avec un bâton. Et vous vous souvenez, la première utilisation du bâton, c'était celle qu'ils ont faite devant Paro quand ils ont voulu changer. Quand le bâton est devenu un serpent, et Paro, il a doucement rigolé, il a amené toutes ses écoles de magie, avec tous les petits gosses qui avaient des serpents, qui avaient été drogués, qui avaient l'air d'être des bâtons, et quand on les a jetés par terre, ils sont redevenus des bâtons. Donc, il dit que si tu m'amènes tu vas pas m'amener à moi de la magie. Nous, on est les grands spécialistes de la magie en Égypte. On va pas se laisser impressionner par ta petite magie. Du coup, ils ont pas fait attention. Qu'en réalité, si on regarde le texte, le bâton de Moshe est redevenu bâton, et c'est en tant que bâton qu'il avait avalé les bâtons, enfin les serpents, des élèves des écoles de magie égyptienne. Mais ça, Paro, il n'a déjà pas regardé, parce qu'il a regardé, ouais, ça c'est... Tu ne vas pas nous impressionner avec la magie, c'est nous les maîtres de la magie. En tout cas, Moshe avait un bâton. Vous vous souvenez, sur ce bâton, il y avait écrit les trois groupes de lettres qu'on utilise, qu'on dit le soir du Seder, qui font référence aux 12, enfin, aux 10 Makot. Et ensuite, au passage de la mer, Hachem a dit à Moshe de prendre le bâton, puis ensuite il lui dit « Étends ta main », et on parle plus du bâton, mais il a toujours le bâton dans la main. Mais ça se passe avec la main. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'un bâton qui relève de la magie, pratiquement, à quelque chose qui n'est plus de la magie parce que c'est la main de Moshe, et ce qu'Hachem voulait, c'est maintenant qu'on voit que la parole de Moshe, c'est-à-dire la parole humaine, dans la mesure où elle a été ordonnée par Hachem, est une parole qui est quasiment divine, puisqu'elle va produire, de la même manière que la parole divine produit, ça va produire de l'eau. Et c'est ça qu'Hachem a dit à Moshe et à Aaron quand il leur a reproché d'avoir frappé le rocher. Lohe mantembi, vous n'avez pas contribué à augmenter la confiance du peuple en moi. C'est-à-dire, quelque part, Moshe a même, on pourrait dire, régressé à ce moment-là, parce qu'il a frappé avec le bâton, et pas seulement avec sa main. Donc en vérité, il y avait une progression, le bâton, la main et la parole. Et la parole n'a pas eu lieu, et au lieu de retomber seulement au niveau main, il est retombé au niveau bâton. Donc c'est une grande régression, et Hachem les a punis, Moshe et Aaron. Et voilà, ben, visiblement, vous êtes définitivement disqualifiés. Vous n'allez pas diriger les Bnei Israël quand ils vont entrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été capable d'aller jusqu'au bout de la construction de la confiance du clan Israël en Hachem. Et donc, la raison pour laquelle Parah Adouma est donnée en même temps que, enfin, la Parah Adouma est écrite juxtaposée à Mehmeriva, c'est pour cette raison-là. Parce que quand on y regarde, le fait que le rocher donne de l'eau, c'est tout à fait anormal. Donc, c'est là pour fortifier la confiance en Hachem. Et que du coup, ils soient capables, les Bnei Israël, d'accepter des mitzvot parce qu'elles viennent d'Hachem, sans qu'il y ait de rationnel derrière ça, c'est-à-dire sans qu'il y ait aucune explication derrière ça. Et on peut aussi expliquer la troisième question, on va répondre à la troisième question qui avait été soulevée, qui est qu'est-ce que ça a à voir avec Shabbat? Parce qu'on a aussi donné la mitzvah de Shabbat à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la notion, avec les dinim qui sont eux aussi donnés à cet endroit-là, le fameux code civil. Dans le fait de pratiquer le Shabbat, il y a bien entendu une épreuve, un grand nissayon, parce que le Shabbat, c'est pas simplement qu'on va pas travailler, c'est qu'on doit considérer, il s'agit de vivre le Shabbat comme si tout mon travail était terminé. Or, très souvent, il n'est pas terminé. Je peux très bien avoir un rapport à rendre lundi. Je n'ai pas eu le temps de le terminer vendredi. Alors, je sais, je vais le rendre dimanche, je vais l'écrire dimanche, etc. Mais Shabbat, je dois vivre mon Shabbat comme si le rapport avait déjà été écrit. C'est-à-dire, c'est un grand, grand nissayon. D'abord, on ne travaille pas pendant 25 heures, quoi, quelque part. Ensuite, le Shabbat, c'est pas seulement une mitzvah qui se pratiquerait uniquement en Eretz Israël dans des circonstances tout à fait particulières. Le Shabbat se pratique, même quand les Bnei Israël sont en galout, sont en exil, ils sont parmi les goyim, ils sont dans une société où on travaille le jour du Shabbat. Donc, quelque part, ça apparaît comme une perte. Une perte de salaire, une perte de gains, etc. Raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a ordonné la mitzvah de Shabbat, justement, de nouveau, Amara, pour que les Bnei Israël se renforcent dans leur émouna et qu'il leur soit plus facile de faire cette mitzvah de Shabbat, conscients qu'ils sont que Hachem s'occupe d'eux, la preuve, il vient de faire un Nes pour eux, Nes betoch Nes avec Mara, avec cet adoucissement de l'eau. Donc, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu peut très bien adoucir l'eau avec quelque chose d'amer, il peut tout aussi bien faire en sorte que les Bnei Israël aient de quoi vivre, par exemple, en ne travaillant que 6 et 7 jours. Et puisque le Shabbat et Parah Aduma sont deux mitzvot qui n'existent pas de façon naturelle, c'est des mitzvot qui viennent uniquement parce qu'Hachem a ordonné de le faire, alors Akadosh Baruch Hu a donné aussi des dinim à ce moment-là. Pour bien montrer au Bnei Israël que bien que les dinim code civil et beaucoup de points communs avec le code civil de n'importe quelle nation, en fait, ça n'est pas un code civil dans le même esprit que le code civil des nations. Ici, il s'agit de mitzvot, c'est-à-dire des choses qu'il faut faire, non pas parce que sinon on ne peut pas vivre dans la société, mais uniquement parce qu'Hachem les a ordonné ces choses-là. C'est un décret divin, point final. Et pas quelque chose de rationnel pour permettre la vie en commun. Donc d'après tout cela, on apprend que l'homme il fait des efforts dans une direction, mais qu'il les fait, le Shem Shamaim, qu'il le fait par parce qu'Hachem a demandé qu'on les fasse. Et même si, effectivement, devant lui, il y a des grandes difficultés, alors, il faut apprendre de là qu'il n'y a pas lieu de désespérer, en quelque sorte. Il faut savoir que Hachem aide. Si Hachem te l'a demandé, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'il va rendre la situation possible. Parce que finalement, ultimement, c'est lui le maître et les choses se font selon sa volonté. C'est la leçon, en quelque sorte, de Parah Aduma, de Shabbat, de Dinim, tout ça, Amara. Voilà ce premier point. Un peu sur cette halakha de, enfin cette paracha de Parah Aduma.
Pardon. Oui, j'aimerais poser une question.
T'en prie.
Comment ça se fait que la paracha de Korah, elle est juste apposée à celle de Parah Aduma, si les lois ont été données avant, et donc selon la marque locale n'aurait pas dû être, si on comprend que le sens de Mitzvot doit être fait simplement parce que c'est...
Non, Odile, on n'a pas dit que Parah Aduma qui est rapporté ici, c'est en temps réel. On dit quand est-ce que Parah Aduma a été donnée? Elle a été donnée avant Matan Torah. Parah Aduma. Mais effectivement, les autres mitzvot, elles ont été redonnées à... Elles ont été données à... au Sinaï, et la machloket de Korach, elle a eu lieu après que les autres mitzvot aient été données. On ne dit pas, c'est pas que les mitzvot, elles ont été, ces mitzvot-là, elles ont été redites. Vous savez bien que le Shabbat, il est dit dans les Aseret HaDibrot qui ont été donnés à Matan Torah. Ça ne veut pas dire que c'était la première fois que les Bnei Israël entendaient parler le Shabbat. Seulement, alors maintenant, pourquoi il fallait le mettre dans Aseret HaDibrot si ça a déjà été donné avant? Ça, je vous ai déjà, je crois, clairement expliqué que dans Aseret HaDibrot, les fameuses 10 paroles, vous vous souvenez en tout cas, elles ont été dites toutes à la fois. Avant qu'Hachem donne les Aseret HaDibrot l'une après l'autre, le texte dit qu'il les a données toutes en même temps. Quelque chose que personne ne peut faire ni ne peut entendre. Et donc la question, c'était à quoi est-ce que ça peut bien servir que de nous donner 10 paroles qui ne sont pas audibles pour nous. Nous ne sommes pas capables d'entendre 10 paroles qui ont été dites toutes en même temps. Alors pourquoi la Torah nous raconte? Elle n'est pas en train de nous dire que nous, on l'a vraiment entendu. On n'a pas entendu. Parce que personne ne peut entendre ça. Alors pourquoi la Torah nous le raconte? La Torah nous le raconte parce que le fait qu'Hachem ait dit la Aseret HaDibrot toutes en même temps, ça vient dire que ça forme un tout. C'est-à-dire que on peut pas, dans les Aseret HaDibrot, et en fait ça veut dire, l'Aseret HaDibrot c'est toute la Torah, on peut pas faire son marché. C'est-à-dire je peux pas dire, je prends celle-là et celle-là, mais celle-là non, je la prends pas. Or, c'est bien ce qui a été fait par la suite, compris par les chrétiens, etc., qui ont fait leur marché dans la Aseret HaDibrot. Ils ont enlevé certaines paroles, ils en ont mis d'autres, pour qu'ils ne correspondent pas. On n'a pas les mêmes fameux 10 commandements. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ça forme un tout. Ça forme un tout, ça veut dire que tu ne peux pas t'imaginer comprendre le « tu ne tueras pas » si tu comprends pas en même temps le Shabbat. Donc, c'est clair que le « tu ne tueras pas », même si, à part le fait qu'il y a quelques petites différences dans la halakha entre le « tu ne tueras pas » des Bnei Noach et le « tu ne tueras pas » des Bnei Israël, par exemple, le « tu ne tueras pas » des Bnei Israël ne concerne pas les oubarines, ne concerne pas le fœtus ou l'embryon. Ça ne veut pas dire que c'est permis, mais si on tue un fœtus ou un embryon, on ne transgresse pas le « tu ne tueras pas ». Il y a un autre interdit, mais pas celui-là. Ce n'est pas la même chose. Tandis que chez les Bnei Noach, c'est le même interdit. Et donc, donc toutes les mitzvot, elles se tiennent. « Kibud av va em », c'est en même temps que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ou les biens de ton prochain. Toutes les 10 paroles qui représentent quasiment la totalité de la Torah, elles se tiennent ensemble, elles ne peuvent pas être étudiées et comprises séparément. C'est une erreur d'essayer de se concentrer sur le « tu ne tueras pas ». Bien sûr, il faut l'étudier, mais il faut avoir présent à l'esprit que ça va de pair avec le Shabbat, de pair avec tu ne voleras pas, avec tu ne feras pas d'image idolâtre, etc. Tout ça, ça va ensemble. Et si tu ne mets pas vraiment ensemble, alors tu n'as pas vraiment compris ce que la Torah te dit quand elle te dit tu ne tueras pas. Et donc c'est la raison pour laquelle Shabbat a été répété. Enfin, c'est une raison, il y en a d'autres probablement. C'est une raison pour laquelle Shabbat a été répété dans la Aseret HaDibrot alors qu'il a déjà été donné comme mitzvah à Mara. Même chose pour les autres Kibud av va em aussi, c'est dans les 10 commandements et pour ça, ça a été donné à Mara. Et donc, c'est pas que dans l'ordre que Chukat a eu lieu avant pardon, Korach a eu lieu avant Foukat. On te parle de la paracha de Foukat à cet endroit-là. Et on a expliqué pourquoi elle est à cet endroit-là. On n'a pas expliqué tellement par rapport à Korach, mais plutôt par rapport à ce qui vient après. Intéressant que les explications qu'on a données sur Foukat sont plutôt des mitzvot. Quand on regarde le texte, c'est plutôt des explications qui expliquent pourquoi on a juxtaposé quelque chose à Foukat et pas pourquoi Foukat est juxtaposé à Korach, par exemple. Là-dessus, on n'a pas donné de réponse. Je ne crois pas, je ne me souviens pas d'avoir vu un Chazal qui pose cette question. La question, elle est sur le futur. Intéressant. Parce que effectivement, Foukat, c'est une mitzvah qui est tournée vers le futur. Tu as eu un contact avec un mort. Quelque part, le contact avec un mort, c'est quelque chose qui ne nous met pas dans une grande forme, de façon générale. Alors on te dit, comment on s'en sort? Comment on sort de l'impureté, de la tristesse, etc., qui est liée au contact avec la mort? On ne parle pas tellement de comment on est devenu. On est devenu parce qu'il y a eu un contact. Il peut être complètement accidentel. Plus fort, s'il vous plaît. Oui.
Est-ce qu'on pense que Moshe Rabbeinu aurait vraiment pu être le nom de l'État d'Israël, de faire rentrer dans l'État d'Israël une émouna
Donc, Charlie demande, si j'ai bien compris, est-ce que s'il n'y avait pas eu le ratage de Memriva, est-ce que les Bnei Israël auraient eu une émouna parfaite? C'est-à-dire, est-ce que il manquait juste ça? Ou bien, de toute manière, je crois que la émouna n'est jamais parfaite. C'est-à-dire que la émouna, c'est une confiance, et la confiance, c'est quelque chose qui n'arrête pas de se construire. Quand on dit « j'ai confiance », confiance. En vérité, on peut toujours demander à quelqu'un, oui, mais jusqu'à combien? C'est-à-dire, quelqu'un peut très bien dire, j'ai confiance dans cette personne, ça veut dire que je lui prête très bien $1 million, ça ne me dérange pas. Mais la question, même si tu lui prêtes $1 million, est-ce que tu lui confierais tes enfants? Bien sûr. Bon, c'est jamais terminé, c'est-à-dire, il y a encore toujours du... Le problème de la confiance, c'est une relation. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est écrit dans la Torah. Il y a Aminu Bashem ou Moshe Avdo. C'est marqué qu'ils ont eu Emouna, ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe au passage de la mer. Mais là, maintenant, on n'arrête pas de raconter qu'ils ont manqué d'Emouna, ils ont manqué de confiance. La confiance, ça va, ça vient aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu un moment où ils ont eu confiance. Peut-être pas une confiance de 100% non plus, mais peut-être qu'on dit qu'ils ont eu confiance parce que avant ils n'avaient pas confiance du tout. Ce qui en soi est un peu paradoxal parce que dire qu'ils ont eu confiance en Hachem après le passage de la mer, ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, toute la sortie d'Égypte, toutes les makotes, etc. qu'ils ont eues, tout ça, ça n'a pas construit la confiance. Ce n'est pas marqué qu'ils ont eu confiance en Hachem quand il les a sortis d'Égypte. Puisque la confiance qu'ils ont, d'ailleurs, c'est un peu étrange comme d'appeler ça de la confiance, parce que, en réalité, au passage de la mer, la raison, quand on dit ils ont eu confiance, qu'est-ce qu'ils ont eu confiance? C'est marqué que quand les Bnei Israël sont sortis de la mer, alors on leur a dit, les Égyptiens sont morts, ils ont dit, pas du tout. Les Égyptiens, nous on est sortis ici, ils sont sortis un peu plus bas ou un peu plus haut, etc. Et donc le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre, Malach qui était préposé à ça, de faire en sorte que la mer recrache les corps des Égyptiens morts. Et c'est quand les Bnei Israël ont vu les corps des Égyptiens morts, il est dit dans le texte, Veyaminu Bashem ou Moshe Avdo. Est-ce que c'est vraiment de la Emouna? Ils ont vu. C'est plus. Est-ce qu'il y a encore de la Emouna là? C'est un peu paradoxal. Emouna, c'est quand tu sais quelque chose, c'est pas de la confiance. Je sais, c'est comme ça. Alors là, il faut expliquer qu'ils ont eu confiance pour la suite, parce qu'Hachem leur avait dit les choses. Maintenant, ils ont vu que ça s'est réalisé, donc la prochaine fois, ils vont faire confiance à Hachem. Mais c'est bien comme ça qu'on construit la confiance. C'est comme ça que les malfaiteurs procèdent. Ils vous empruntent 10 et ils vous les rendent. Alors, après, ils vous demandent 50. Alors vous les donnez puisqu'il m'a rendu les 10. Alors, ils vous les rendent, les 50. Alors, selon le montant qu'ils veulent vous escroquer, ça marche jusqu'à un certain moment. Et puis, au moins, à un certain moment, vous leur prêtez parce que le passé vous dit de leur prêter. À ce moment-là, ils s'en vont. Et votre argent est perdu. Donc, ils ont construit une confiance. Et voilà. Et ensuite, ils ont trahi cette confiance construite. Donc, c'est jamais terminé, là, le processus de confiance. Donc, je ne sais pas la situation aurait été une situation de confiance totale. Peut-être qu'il faut le voir d'un autre côté et se dire que finalement, malgré toutes les situations dans lesquelles Hachem avait dit à Moshe qu'il n'entrerait pas en Eretz Israël, ça il lui avait déjà dit tout de suite. Quand il a refusé d'aller sortir les Bnei Israël d'Égypte, il avait refusé parce qu'il ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de son frère Aaron. Hachem lui a dit, ok, maintenant tu verras, pendant l'histoire où son intervention auprès de Paro a entraîné une aggravation de la situation. Hachem lui a dit, et Moshe a protesté. Vous vous souvenez, ça c'est... Et Hachem lui a dit, ok, à t'attirer, maintenant tu vas voir. C'est-à-dire, tu vas voir ce que je vais faire à Paro, mais tu verras pas ce que je ferai aux 31 rois au moment de la conquête d'Eretz Israël. Donc Hachem lui a dit, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Mais à plusieurs reprises, Hachem avait dit qu'il allait détruire le clan d'Israël, etc. Et chaque fois, Moshe Rabbeinu est intervenu, il a obtenu que Hachem pardonne. Et Moshe a pensé que Hachem allait lui pardonner à lui aussi, et finalement, il va le laisser entrer en Eretz Israël. Et on voit que ça devait être probablement le cas, puisque cette fois-ci, il a dit, ce coup-là, c'est terminé, vous n'entrerez pas, ni toi, ni Aaron. Donc c'est machin qu'avant, malgré tout ce qu'Hachem avait dit, ils allaient quand même entrer. Mais là, du coup, ils n'entrent pas. Donc ça veut dire que s'ils avaient parlé au rocher, alors ils auraient construit un niveau d'Emouna supplémentaire, et à ce moment-là, Moshe serait entré en Eretz Israël. Si le clan d'Israël entrait avec Moshe en Eretz Israël, c'était la fin de l'histoire. Moshe Rabbeinu aurait été Mashiach et c'était la fin. Alors c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut dire, comme pour répondre à ta question, que peut-être ça correspondrait à une Emouna parfaite. Il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet sur lequel je voudrais parler un petit peu maintenant. C'est sur la manne. Si vous allez dans le chapitre 21, dans les psukim 5 et 6, le pasuk dit L'Ebné Israël parle d'une façon très, très, très vulgaire, pratiquement, on pourrait dire. Dans le pasouk, c'est marqué comme ça. Vaidaber ha'am be'Elokim uv Moshe. Le peuple a parlé contre Elohim et contre Moshe. Jarachi ici s'arrête sur le fait que les Bnei Israël ont parlé contre Elohim et contre Moshe. C'est un peu surprenant de les mettre ensemble sur le même plan. A priori, c'est pas comme ça qu'on parle. Alors, ils ont parlé contre et ils ont dit Lama Elitunu Mitzrayim. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte Lamut Bamidbar pour que nous mourions dans le désert. Ki en lechem ve'en mayim, y'a ni pain ni eau. Benafshenu et notre âme, notre corps en fait, le nefesh. Katsab alechem akloquel. Notre âme est dégoûtée de ce pain akloquel. Eux, ils ont traduit dans le scroll, ils ont traduit inconsistant. C'est bien de ça qu'il s'agit. Le mot que lequel, il s'écrit kal kal, kuf lamed, kuf lamed. Ça veut dire, kal, ça veut dire léger. Kal kal, ça veut dire super léger. Ce pain super léger, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était super léger? C'est que le pain super léger en question, c'est la manne. Et la manne, elle ne faisait pas de déchets. C'est-à-dire, comme Rashi explique, que la manne, en tant que nourriture, elle allait directement distribuée dans le corps, à l'endroit où chaque atome de chaque molécule de si c'était les molécules, je ne sais pas, molécule de manne devait aller, elle allait. Donc il n'y avait absolument aucun lest. Mais du coup, il ne se sentait pas exister. Il n'y avait jamais la peau du ventre bien tendue, quoi, si vous voulez. Donc il dit, c'est insupportable. Ils étaient rassasiés, ils n'avaient pas besoin de plus. Mais ils n'avaient pas ce sentiment de satiété. Donc on leur envoie la manne. La manne, c'est une nourriture céleste. Comment ils en parlent? Alechem akloquel. Ils parlent de façon méprisante, dégoûtante. Alors là-dessus, à cause de ça, Hachem a envoyé les fameux serpents dont on a parlé. Donc il y a un problème. C'est quoi exactement cette histoire de l'Echem Akloquel? En chili, c'est Nivla Ba'evarim. C'est immédiatement absorbé dans les membres, dans le corps. Alors, on sait par ailleurs, écrit dans cet Hershemot, que la manne, c'est l'Echem Min HaShamayim. C'est un pain qui vient du ciel. C'est-à-dire, c'est quelque chose de purement spirituel. C'est le lechem shemalachi asharet ochlim oto. Les anges, ce sont des créatures, elles ont besoin de nourriture aussi. Et leur nourriture, c'est de la manne. Une nourriture purement spirituelle. Hachem a donné au Bnei Israël une nourriture spirituelle. Chazal dit par ailleurs, la Torah n'a été donnée qu'aux mangeurs de manne. à ceux qui mangeaient de la manne, c'est-à-dire ceux qui pouvaient se nourrir spirituellement. Il y avait une autre caractéristique de cette manne, c'est que Ayam Mishtane le Kamata Amim, dit Rashi. C'est-à-dire, tu mangeais la manne, et cette même manne avait des goûts différents. Dans les nourritures ordinaires, une nourriture matérielle, elle a un parfum, elle a un goût spécifique. Donc ça excite les papilles gustatives et autres, etc. Donc voilà ce qui se passe avec une nourriture ordinaire. Et donc, quand tu mangeais la manne, ça avait les goûts de ce que tu voulais. Tu veux que la manne ait un goût d'abricot, c'est un goût d'abricot. Tu veux que c'est un goût de steak pommes frites, c'est un steak pommes frites. Alors, comme je vous ai dit, une fois qu'ils sont pleins de cette manière-là, Hachem a envoyé les serpents. Il faudra aussi un peu comprendre en quoi d'envoyer les serpents, Sroufim, c'est les serpents qui brûlent, c'est-à-dire la morsure était une brûlure. En quoi c'est une réponse, c'est une sanction? Quel est le rapport entre mal parler de la manne et ces serpents-là? Il faut se souvenir que une sanction, c'est toujours quelque chose qui est au moins pédagogique. Donc, a priori, dans la sanction, tu comprends quelle était la faute, ou tu comprends qu'est-ce qu'il faut réparer, etc. Mais là, ça veut dire quoi? Quel est le lien, justement? Il y a un Chazal qui répond justement un peu à cette question, qui dit « Yavo nachash, shekol aminim itamim lo tam echad » que vienne le serpent. Parce que ce qui se passe, c'est que le serpent, c'est que tout a pour lui, enfin, ce qu'il est présenté, tout a pour lui le goût de la poussière. Il bouffe de la poussière, et sa poussière, ça peut être un lièvre ou un éléphant ou je sais pas quoi, ce qu'il arrive à avaler, peu importe, mais ça a le goût de poussière. Alors, Yavo nachash shekol yaminim itamim lo tam echad, toutes les espèces ont le même goût, veipara, et ils viennent faire payer à ceux qui sont fouillés Tova, des gens ingrats, c'est d'avoir Echad Mishtane Laem le Kamatamim, où la même chose a tous les goûts. Donc c'est exactement le contraire. Le Nachash, il prend tous les goûts et ça a toujours le même goût. Et la manne, tu prends une chose et ça a tous les goûts que tu peux vouloir. Bon, mais on ne comprend pas vraiment comment ça marche. Alors, il y a ici quelque chose d'absolument fondamental. D'ordinaire, on pense, et on s'explique en fait les choses, en disant que l'homme est toujours dans une situation, disons, de manque ou où il est un peu à l'étroit. il n'a pas tout ce qu'il veut. Et par conséquent, c'est, si vous voulez, c'est fabriqué exprès. Hachem a créé un monde imparfait. Avec toutes les questions que ça pose, comment est-ce qu'Hachem qui est parfait peut-il construire, fabriquer de l'imparfait? En tout cas, il a fabriqué de l'imparfait pour que les hommes le rendent parfait. Mais la façon dont les hommes peuvent rendre parfait le monde, elle est bien précise. Elle est très précise, en fait, c'est que l'homme est obligé d'en passer par la prière. Il doit adresser sa prière à Hachem pour qu'Hachem, effectivement, l'aide à combler le manque en permanence. Et d'une certaine manière, la prière, elle est perçue comme une façon de demander en permanence la grâce divine, en quelque sorte. Hachem nous aide ou fasse en sorte que nos besoins humains soient remplis, soient comblés. C'est comme ça qu'on a l'habitude de comprendre les choses. Mais les Chazal disent que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, dès le départ, la création qu'Hachem a fabriquée, en quelque sorte, s'est fait pour que l'homme soit effectivement dans cette situation-là, et pour qu'il soit obligé, à tous les moments de sa vie, de se tourner vers Hachem, de lui demander des choses. Et le flux des bontés divines va effectivement satisfaire ses demandes. Chazal disent, Akadosh Baruch Hu mitaveh le tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il désire la prière des tzadikim. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem désire la prière? C'est parce que, avec cette prière de l'homme, vers Hachem, Hachem lui répond à sa prière. Alors ça fabrique un lien entre l'homme et son créateur. Ce lien-là, entre le créateur et la créature, c'est le but de la création du monde. C'est-à-dire, le manque n'est qu'un moyen pour obliger l'homme à se tourner par la prière vers Hachem. Et ce processus, ce fonctionnement est tellement fondamental dans la création, au point que il y a des choses qui ne peuvent venir que par la prière. Et même quand Hachem a décidé que quelque chose allait se faire, néanmoins, il est nécessaire que l'homme prie. Le Rav Tzadok HaKohen, il explique ça pour montrer que ça vient vraiment de l'essentiel. C'est que, vous vous souvenez, Eliyahu HaNavi, il a arrêté la pluie. Parce que les Bnei Israël se comportait mal. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans. Et donc, il y a eu une famine incroyable. Au bout de 3 ans, quand je vois quoi dit Eliyahu HaNavih, il lui a dit « Lech, Re'el Achav, va, présente-toi devant le roi Achav, qui était un roi idolâtre. Et moi, j'enverrai la pluie sur la terre. » Et Eliyahu HaNavih lui-même, il a fait quelque chose, lui-même, par exemple, dans la fameuse histoire avec les prophètes du Baal, il a fait descendre le feu du ciel, vous vous souvenez? Tout ça pour amener les gens à faire tshuva et à reconnaître Kadosh Baruch Hu. Jusqu'au point où tout le monde a abandonné l'idolâtrie de l'idole Baal. Et Eliyahu HaNavih a dit à Achav, au roi Achav, il lui a dit, tu peux aller manger, boire, parce que maintenant la pluie va venir. Et malgré tout, Hachem avait dit, la pluie va venir. Et malgré tout, le pasouk dit, Ve'eliyou ala al rosh ha Carmel. Eliyahu HaNavih est monté sur le Carmel. Ve'igar artsa, ve'yasem panav ben birchav. Il s'est assis par terre, il a mis sa tête entre ses genoux, il a pris, c'est toujours la fameuse position fœtale, quoi. Ve'gachin le'ara le'itpalel ala kshamim. Il s'est traîné devant Hachem pour supplier qu'Hachem envoie la pluie. Hachem lui avait dit, j'envoie la pluie. Pourquoi il prie? C'est toujours la même idée. C'est bien que quand je vous aurais déjà décidé, Inachamaim, c'est déjà décidé, la pluie, on va l'envoyer. Néanmoins, il fallait qu'Eliyahu HaNavih fasse quelque chose pour que la pluie puisse tomber. Il faut comme s'il fallait fabriquer un réceptacle pour la pluie. Hachem veut envoyer la pluie, mais c'est aux hommes de fabriquer le réceptacle pour la pluie. Et le moyen de fabriquer ce réceptacle, c'est la prière. Et donc là, du coup, Eliyahu HaNavih, il est devenu Shaliach Tzibur, il est devenu l'officiant qui parle au nom de tout Israël, qui prie au nom de tout Israël. Mais en réalité, Rav Tzedek HaKohen, il fait remarquer que cette notion de prière, elle est là depuis le tout début. Alors ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. On en a reparlé. La première occurrence de l'homme dans le récit de la création, c'est pas le sixième jour où l'homme a été créé. Dans le pasouk, c'est marqué Kol siach hasadeh terem yeh ba'aretz, kol esev hasadeh terem nitzmach. Donc il n'y a pas un brin d'herbe qui a poussé. On est après la création justement de l'herbe, des herbes et de etc. Keshe gamra briat haolam beshishi kodem shenivra haolam. Velama ilohim tir Hashem Elokim al haaretz. L'idée c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé les végétaux. Et les végétaux, ils se sont développés, mais ils ont affleuré le sol. C'est-à-dire la partie qui s'est déroulée sous terre s'est déroulée, mais les végétaux n'ont pas poussé au niveau Ils sont restés bloqués. Et on demande pourquoi ? Parce qu'Hachem n'a pas envoyé la pluie. Mais pourquoi il n'a pas envoyé la pluie ? Demande le Passouk, en fait. C'est une façon de le présenter comme ça. Adam, en la avod et adama. Il n'y a pas d'homme qui travaille la terre. En makir betovatan shel geshamim. Donc personne ne connaît l'importance de la pluie. Quand Adam a été créé, et lui, ça, il a compris que la pluie était nécessaire pour le monde, il a prié, la pluie est tombée, et tout a poussé aussi dans la partie aérienne, en fait. C'est-à-dire que l'homme apparaît dans le texte de la création sous forme d'absence. Son mode d'apparition, c'est son absence. Qu'est-ce qu'on dit ? Il n'y avait pas d'homme. Jusqu'au sixième jour, il n'y a pas d'homme. Puisqu'il n'y a pas d'homme, il n'y a personne qui comprend l'importance de la pluie. Personne ne prie. Donc on voit que l'homme, il est créé comme un homme, il est comme un être priant, un orant, son oratoire, oui, pas la ville. Oui. J'ai compris Claudine, on parle d'orant, mais c'est pas votre orant à vous. Donc l'homme, la fonction de l'homme ici, c'est de prier. C'est vrai que cette phrase de Kadosh Baruch Hu désire la prière des humains, des tzadikim, on l'applique en général aux femmes. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment aux hommes. On l'applique aux femmes et on l'applique aux femmes qui sont enceintes et qui sont d'une certaine manière, en tout cas provisoirement, stériles et qui du coup se tournent vers Hachem pour demander qu'Hachem comblent leur manque, à savoir, elles veulent devenir mères, elles veulent construire le clan d'Israël, c'est les Imaot, et pas seulement les Imaot, Hana aussi, c'est la même chose, la mère de Shmuel. Et c'est à leur sujet qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu désire la prière des tzadikim et c'est appliqué aux femmes. Je ne peux pas garantir que c'est jamais appliqué aux hommes, mais en tout cas, c'est très connu, appliqué aux femmes. Donc, la première chose qu'il faut comprendre ici dans cette affaire de la manne, c'est qu'en réalité, quand Hachem comble, Hachem a peut combler nos manques à condition qu'on demande, que nous demandions qu'il soit comblé, effectivement. Alors, c'est un peu compliqué parce que la manne, elle comble nos manques avant même qu'on les ait demandés. Enfin, oui, immédiatement. Tu as envie que ce que tu manges, ça a un goût de ceci ou plutôt que cela, immédiatement, ce goût-là est là. Au principe de Levenstein, au Mashgiach de Ponyvesh, il a fait remarquer Rambam, il dit Mishechata Chet Gadol, celui qui a fait une grande faute, ou bien il a fait Chataim Rabim, ou bien il a fait des petites fautes, mais il en a fait beaucoup. Nigzar Alav Akashé Shebeomshin, alors il peut y avoir une décision contre lui qui est la décision la plus dure à supporter. C'est quoi? Sheiten adin lifnei dayan haemet, qui va devoir donner des comptes devant le juge de vérité, devant Hachem. Sheye apiraon miser achote, et la sanction de celui qui a fauté, ce sera quoi? Shemonim mimenu atchuva. On va l'empêcher de faire tchouva. On l'empêche de faire tchouva pour qu'il meure de sa faute. Ici, le Rambam nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit qu'il se peut très bien que quelqu'un mérite une sanction énorme, la plus grande des sanctions. C'est-à-dire qu'en principe, on va l'empêcher, on veut qu'il meure de sa faute. Parce que lui, comme il a choisi le mauvais chemin, il s'est éloigné par de très grandes fautes ou bien par beaucoup de fautes, on lui enlève la Bechira, la possibilité de choisir de faire tchouva. Donc, il ne bénéficie pas de l'effet de la tchouva qui est réparateur. C'est que Akadosh Baruch Hu a créé une possibilité de réparer même les très très grandes fautes. Quelle est la plus grande sanction? C'est qu'on t'empêche de faire tchouva. Alors, le grand exemple de celui qu'on n'a pas laissé faire tchouva, c'est Paro. Marqué dans la Torah, Ani achazek et libo, je vais fortifier son cœur. Ça veut dire, comme il a fait de sa propre initiative, il a fauté, il a fait du mal au clan d'Israël, qui ne faisait que d'habiter dans son territoire. Alors le din est qu'on l'a empêché de faire tchouva. Akadosh Baruch Hu l'a renforcé son cœur, c'est-à-dire il ne va pas faire tchouva. Et effectivement, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ashkem Baboker, lève-toi de bonne heure et va au fleuve. Va te présenter devant Paro. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il aille très tôt? Pourquoi il faut qu'il se lève tôt? La harsha akadosh baruch hu metzape la rechaim chiasu tshuva ve'enam osim. Akadosh baruch hu, il attend, il désire que les rechaim fassent tshuva. Et voilà qu'ils ne le font pas. Donc même si à la toute dernière minute, quand ils comprennent qu'ils sont vraiment perdus, ils voudraient faire tshuva, unotel et libam sheloyasu tshuva. Il leur enlève la possibilité de faire tshuva. Donc même à ce moment-là, ils veulent le faire. Et Ubaim, le Midrash dit, ils viennent la sok bitfila, ils voudraient maintenant prier Hachem, et nam yicholim, et ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que HaKadosh Baruch Hu leur a enlevé la possibilité de faire tchouva. Et le Midrash dit, Paro, effectivement, il voulait prier pour qu'Hachem lui pardonne. Béamar à Kadosh Baruch Hu le Moshe, Hachelo Yetse, avant qu'il se lève et qu'il se mette à éventuellement prier, arrive et parle-lui tout de suite. Occupe-le, empêche-le de pouvoir faire tchouva. Comme toujours, on entend à partir du négatif, on entend le positif. C'est que si Paro avait réussi à prier à ce moment-là, il aurait été sauvé. Tout Paro qu'il est, tout le mal qu'il a fait, etc., s'il avait réussi à prier, il aurait été sauvé. Il n'y a rien qui résiste à la prière. Et donc la sanction, c'est empêcher quelqu'un de prier.